إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Nous continuons avec l'explication de Sourate Al-Baqarah. Nous en sommes aujourd'hui au verset 219, Inch'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
Dans le verset 219, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes. Mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe que les croyants ont interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur les règles concernant le vin et le jeu de hasard avant qu'ils soient strictement interdits. Il est vrai en fait que ces choses étaient largement répandues au temps de la Jahiliyyah, c'est-à-dire que ce soit le vin ou le jeu de hasard. Et même au début de l'islam, c'est comme si un doute et un quiproquo avaient entouré cette affaire. Ce qui a amené les croyants à interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les règles les concernant. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son messager de leur montrer les avantages et les nuisances qui s'y trouvent afin que cela soit un préambule et une introduction à l'interdiction formelle et définitive, et pour que cela soit une incitation à leur abandon. Il leur a dit donc que leurs nuisances et leurs torts, comme l'ivresse qui fait disparaître la raison, le gaspillage des biens et de l'argent, le détournement de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière, la haine et l'animosité qu'il suscite sont plus grands que les avantages qu'il pense pouvoir en tirer, sont beaucoup plus grands que les avantages qu'il pense pouvoir en tirer, consistant dans le profit pécunier, c'est-à-dire qu'ils en font un commerce, ou le plaisir qu'ils peuvent y trouver ou bien qu'il peut procurer. C'est là une incitation efficace pour les âmes, dans la mesure où une personne sage compare toujours les choses et il opte pour ce qui est utile et profitable pour lui, puis se détourne de ce qui est nuisible et préjudiciable pour lui. Pourtant, dans la mesure où vous avez pris l'habitude de ces choses-là au point où il leur était très difficile de les abandonner du premier coup, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de ce verset une introduction à l'interdiction stipulée dans sa parole, où il dit dans le sens « Ô vous qui avez cru, les boissons enivrantes, les jeux de hasard, les bétils et les flèches divinatoires ne sont autres qu'une souillure diabolique. » Jusqu'à sa parole, allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? Pour ce qui est du vin, quand Allah Ta'ala interdit le vin, ce n'est pas la boisson du vin que l'on connaît seulement, c'est-à-dire l'alcool qui est fabriqué à partir du raisin. Non. Mais il faut entendre par cela toute substance, que ce soit une boisson ou autre, toute substance enivrante, quelle qu'elle soit, toute substance qui fait tourner la tête, qui voile la raison. Concernant le jeu de hasard, il s'agit de tous les jeux et paris où les partenaires dépensent de l'argent. C'est-à-dire les gens, ils parient sur un jeu. Chacun, il mise une somme et celui qui gagne ce jeu prendra toute la mise. Comme cela se passe dans tous les jeux de hasard. C'est-à-dire chacun est obligé de venir miser une somme. Que ce jeu soit du trick-track, des jeux d'échecs, peu importe. Même un pari théorique, c'est-à-dire que les gens ils parient entre eux sur quoi que ce soit, ou une pratique, dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est un jeu de hasard qui est interdit. Et il y a exception faite de la course des chevaux, de chameaux ou du tir à l'arc. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire qu'on a le droit de parier sur les courses de chevaux. Mais plusieurs coureurs, par exemple, ils font une course ensemble. Ils ont le droit de parier entre eux, que le vainqueur, il prenne toute la somme. Donc il y a exception faite pour les courses de chevaux, pour les courses de chameaux et pour le tir à l'arc. Car ces trois actions aident à s'entraîner au combat sur le sentier d'Allah. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a permis pour cela que les gens puissent parier entre eux. Non pas que l'on parie sur eux, comme ils font aujourd'hui, les gens qui parient sur les courses de chevaux. Non, ça c'est haram. Ça c'est exactement pareil que les jeux de hasard qui sont interdits. On parle clairement de plusieurs coureurs qui parient entre eux et que le vainqueur, il prenne la somme totale de ce que chacun a mis. Puis dans la suite du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens, il t'interroge également sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Dis-leur, ce qui dépasse vos besoins. Tels sont les enseignements qu'Allah vous donne pour vous amener à réfléchir sur la vie présente et sur la vie future. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ici que les croyants ont questionné sur le montant à dépenser en aumône. C'est-à-dire Allah Ta'ala, elle a donné l'ordre d'être bon, de faire des dons en dehors de la zakat. Alors les croyants ont voulu savoir, est-ce qu'il faut tout dépenser, donner tous ses biens, ou quelle partie de ses biens il faut donner? Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a facilité les choses en leur ordonnant de dépenser selon leurs moyens ce qui dépasse leurs besoins, c'est-à-dire ce qui reste en plus de leurs besoins et leurs nécessités. Ceci concerne chaque personne en fonction de ses moyens, qu'elle soit riche, pauvre ou de classe moyenne. Chacune a les moyens de dépenser ce qui est superflu de ses biens, même s'il s'agit d'un morceau de date. Même s'il s'agit d'un morceau de date. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, tels sont les enseignements qu'Allah vous donne pour vous amener à réfléchir sur la vie présente et sur la vie future. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir donné ces exemples, nous pousse à les méditer et à méditer sur la réalité de ce bas monde
et la réalité de l'au-delà.
Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset 220, « Quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet, améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. Si vous les fréquentez, traitez-les en tant que frères. » Allah connaît le réformateur ainsi que le malfaiteur. Et si Allah l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter, car certes Allah est puissant et sage.
Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset qui met en garde sur le fait de manger l'argent, les biens des orphelins, dans le sens de sa parole, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins ne font en réalité que manger du feu dans leurs entrailles et ils sont voués à l'enfer. Donc, quand ce verset a été révélé, cela fit de l'effet dans les poitrines des musulmans. Ça les a touchés et ils ont eu peur d'être injustes envers les orphelins. Alors ils ont commencé à séparer leur nourriture de la nourriture des orphelins qu'ils avaient à leur charge, de peur de les consommer injustement, bien que l'habitude des gens leur impose de mélanger ces nourritures. Ils interrogèrent donc le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à ce sujet, qu'il leur répondit que l'essentiel était de protéger les biens de l'orphelin et de les faire fructifier par le commerce et autres moyens licites afin d'améliorer leurs conditions. Quant au mélange de la nourriture ou autre avec eux, il n'y a aucun inconvénient à ce sujet, à condition de ne pas leur porter préjudice, car ils sont vos frères. Or, il est dans la nature des choses que le frère mélange ses biens avec son frère et que les frères se mélangent entre eux. Ce qui compte le plus, c'est la bonne intention et le dessein de l'acte. Celui dont Allah tabaraka wa ta'ala sait qu'il est de bonne foi et qu'il œuvre pour le bien-être des orphelins, sans avoir de visée sur leurs biens, même s'il consomme inintentionnellement quelque chose de ce qui appartient aux orphelins, il n'aura nul grief, aucun reproche ne lui sera fait. Par contre, celui dont Allah sait que les véritables intentions qui l'animent dans le fait de mélanger ses biens avec les biens de l'orphelin sont de mettre la main sur les biens de l'orphelin, celui-là sera coupable de péché et fera l'objet de reproches, et il sera concerné par le verset qui met en garde celui qui mange injustement le bien des orphelins, qu'il est en réalité en train de manger du feu de l'enfer dans ses entrailles. Qu'Allah nous en préserve. Il y a dans ce verset une preuve sur la permission de mélanger ses biens avec ceux de l'orphelin dans la nourriture, la boisson, les contrats commerciaux et autres. Cette permission est une marque de compassion de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et une aisance qu'il accorde aux croyants. Sinon, comme il a dit dans le verset, si Allah l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter. Mais certes, Allah est puissant et sage. Effectivement, Allah est puissant. Il a la capacité, il a la puissance complète. Et c'est lui le suprême dominateur sur ses serviteurs. Donc il est capable de toute chose. S'il a décidé d'un ordre, il dit soit et cette chose est. S'il a décidé d'imposer une règle, même si elle est difficile pour l'être humain, il aurait pu le faire. Mais il faut savoir en même temps qu'Allah Ta'ala a dit, certes Allah est puissant et sage. C'est-à-dire qu'Allah ne fait pas une chose en dehors de la sagesse. Sa sagesse est parfaite et complète. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce qu'il crée, il ne crée aucune chose en vain, sans objectif. Chaque chose a un objectif et a été créée selon la sagesse d'Allah, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. De même, ces règles religieuses ont été données pour l'intérêt de l'être humain. Il y a une sagesse derrière chaque ordre religieux. Allah tabaraka wa ta'ala ne s'enrichit pas des dons qu'on fait. Allah tabaraka wa ta'ala ne devient pas plus fort ou plus puissant par l'adoration qu'on lui donne. Allah se passe de l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala n'a besoin de l'adoration de personne. Et la désobéissance des créatures ne lui diminue en rien sa puissance et ses richesses. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui le suprême dominateur, le maître. Donc, quand il ordonne des ordres religieux, il y a une sagesse derrière cela, qu'on la comprenne ou qu'on l'ignore. Et certes, Allah sait mieux où est notre bien, et il a déterminé tous les ordres religieux selon sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Alors, chaque ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est pas dénué de sagesse. Et il ne donne pas un ordre sans que cet ordre soit un bien dans l'absolu ou bien un bien prépondérant. C'est-à-dire que le bien est plus grand que le mal dans celui-ci. Et il n'interdit pas une chose sans que son mal est un mal absolu ou bien que son mal soit plus grand que son bien. Si le croyant sait cela, alors il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque ordre et il délaisse chaque interdit avec plaisir et satisfaction, car il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait et que nous ne savons pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.